Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je présente tout de suite mon invitée qui est Sarah Ray, que nous avons déjà reçue une première fois, mais on lui dit déjà bonjour. Bonjour Sarah.
Bonjour. Bonjour.
Alors Sarah, nous l'avions entendue à propos d'un livre précédent qui nous avait déjà beaucoup plu, c'était Les larmes de Rome. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de Manousse. C'est un essai qui est sorti fin d'année 2024, donc il est tout récent, et nous allons le parcourir ensemble. Alors Sarah, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Valenciennes et vous travaillez de tout temps, peut-être de toute petite, je ne sais plus, sur l'histoire romaine dans ses dimensions religieuses et sociales, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Alors, ce qu'on aime avec vous, à l'occasion de ce livre aussi, c'est que c'est une autre histoire de Rome. D'ailleurs, c'est le sous-titre de cet ouvrage paru chez Albin Michel. C'est « Manousse, une autre histoire de Rome » avec une préface de John Shay. Donc, ce livre-là nous conforte dans l'idée que vous abordez l'histoire d'une manière tout à fait originale, en regardant principalement le corps, ses usages, ses symboliques. Et du coup, vous regardez de la petite lorgnette, j'allais dire, des choses qui d'habitude sont vues d'une manière générale. Là, vous entreprenez avec les mains de regarder comment les Romains faisaient avec leurs mains, ça semble idiot de dire ça, mais comment ils concevaient cette main si importante. Est-ce que c'est bien la démarche?
Oui, alors j'espère que la lorgnette n'est pas trop petite.
Non, elle n'est pas petite du tout.
N'est pas trop réductrice. Et avec ce sujet, je me prêtais peut-être à pas mal de malentendus parce que j'ai eu jusqu'à présent des questions sur voilà, les bagues, où sont je sais pas, les décorations des mains, le vernis à ongles. Alors non, je ne voulais pas partir dans une histoire antiquaire. Des mains. Ce qui m'intéressait, c'était de voir les valeurs attachées à cette partie du corps, donc à la manousse, en lien étroit avec le droit, finalement. Tout ça, donc, partant aussi d'un mythe, le mythe de Mucius Caevola.
Oui, voilà, on va l'évoquer, bien sûr.
Ce grand héros des débuts de la République romaine qui met volontairement sa dextra, sa main droite, au feu et... Tout ça pour signifier qu'il n'a peut-être pas réussi à aller jusqu'au bout du serment qu'il avait juré avec d'autres jeunes hommes de Rome, à savoir donc tuer le roi ennemi Porsena.
Alors justement, sa main droite sacrifiée, c'est celle du serment, justement.
Oui, il y a quand même beaucoup de liens entre la main droite et la prestation de serment. L'engagement de la fidèce, ça c'est une valeur tout à fait cardinale pour les Romains, la bonne foi. Et cette fidèce, finalement, c'est un préalable au droit tout court. Et on sait que les Romains ont été des grands juristes, très fiers de leurs lois, de leur production juridique. Et avec ce mythe de Mucius Caevola, on est vraiment dans ce qui annonce cette grande histoire du jus, hein, du droit romain. Donc la main droite comme gage de fidélité, comme aussi symbole de ce qui va permettre la vie en société, les contrats, les liens de confiance entre Romains.
Et d'ailleurs, on aurait pu commencer par là. Cette manousse, elle est essentielle évidemment à tout le monde, mais en français aussi, nous avons un héritage important et de nombreuses expressions qui sont fabriquées, alors héritées directement du latin, je pense à manu militari, in manu, être dans la main de quelqu'un, dans le pouvoir de quelqu'un, et puis beaucoup, beaucoup de mots, manutentionnaire, manuscrit, manuel, on ne va pas les égrener tous, mais chez nous aussi, cette manus, mot latin de la quatrième, vous le rappelez d'emblée, ce mot latin, il désigne à la fois la main et puis aussi la troupe ou la puissance. Et tous ces mots convergent, en français comme en latin, vers cette idée du pouvoir.
Oui, c'est vrai que cette association entre main et pouvoir, elle n'est d'ailleurs pas... l'exclusivité des Romains, hein. Mais les Romains ont poussé assez loin cette symbolique-là, ne serait-ce que parce que dans beaucoup de concepts juridiques, on va retrouver donc la manus, ça désigne ben, la possession, ce qu'on retrouve par exemple dans le terme composé mancipatio,
Oui.
c'est ça, c'est la possession, ça a donné après émanciper en français, hein.
Oui.
C'est sortir de la mancipatio, sortir de la possession du père de famille. La manumissio, l'affranchissement, donc ça aussi c'est sortir de la main de votre maître si vous êtes un esclave. On a aussi ben, la procédure d'arrestation qui apparaît dès la loi des 12 tables, hein, la manus injectio. Donc le lancer de la main, il a fallu formaliser cette arrestation. On considérait qu'on ne pouvait pas mettre la main sur le corps d'un autre citoyen sans autorisation légale. Donc tout ça, effectivement, implique la main. La main, c'est évident, c'est à la fois la protection et aussi ce qui peut punir. Donc tout ça, c'est les deux aspects de la loi. Et là encore, les Romains, en tant que grands juristes, avaient besoin de cette partie du corps pour exprimer beaucoup d'aspects de leur loi.
Alors, on va revenir sur cette Manu et celle de la famille, du père de famille, dans un instant. Mais je voudrais d'abord signaler que ce livre, quoique très érudit, très documenté, et je n'ai même pas compté le nombre de pages à la fin qui sont dévolues aux notes
Oui, je sais
explicatives.
qu'on a beaucoup.
Il y en a beaucoup, mais en tout cas, le corps du livre, les développements, les réflexions sur cette histoire de Rome autrement que l'on regarde par le langage des émotions, et là, c'était le cas pour les larmes de Rome, et le langage du corps avec celui-ci, Manus. Vous nous direz peut-être si vous avez prévu d'éplucher, entre guillemets, d'autres parties du corps romain après. Mais donc, ce livre, il se lit facilement, il est précis, il est appuyé sur des tas de choses précises, elles aussi. Des textes, des images, du matériau épigraphique. Je vais d'abord prendre soin, comme vous l'avez fait dans le chapitre consacré à l'éloge des mains, vous avez donné deux passages importants d'un dialogue philosophique. Hein, on sait combien le dialogue, c'est important dans l'Antiquité pour tous les gens qui veulent réfléchir. Et Cicéron, à un moment, dites-vous, où il cherche un dérivatif à sa peine, puisqu'il a perdu Tullia, sa chère Tullia, eh bien, dans la nature des dieux, il fait dire à Balbus, pardon, cet éloge des mains que je lis, le prenant à la page 104, puis 105 de votre livre. Quelle servante, et cela dans combien d'arts, sont les mains que la nature a données à l'homme? Les doigts se plient et s'allongent facilement grâce à la souplesse des jointures et des articulations qui leur permet de faire tous les mouvements sans effort. C'est pourquoi, par le simple jeu des doigts, la main est capable de peindre, de modeler, de graver, de tirer des sons de la lyre et de la flûte. Voilà pour le divertissement. Mais voici des besoins vitaux. Je veux dire la culture des champs, la construction des maisons, la confection des vêtements tissés ou cousus, et toute l'industrie du bronze et du fer. On comprend comment, grâce aux mains des artisans qui mettent en œuvre les inventions de l'esprit et les perceptions des sens, nous nous sommes procurés tout ce qu'il nous fallait pour être abrités, vêtus et en sécurité, et nous avons des villes, des murailles, des habitations, des temples. Un petit peu plus loin, et je vous suis encore à la page 105, c'est encore le travail des hommes, je veux dire de leurs mains, qui nous révèle la diversité, l'abondance des aliments. En effet, d'une part, c'est la main qui nous procure de nombreux produits agricoles, qui sont consommés immédiatement ou mis en conserve pour les laisser vieillir. D'autre part, nous nous nourrissons d'animaux terrestres ou aquatiques et d'oiseaux, tantôt les capturant, tantôt les élevant. Nous domestiquons aussi pour en faire des moyens de transport, des quadrupèdes, dont la rapidité et la force nous apportent à nous-mêmes force et rapidité. Nous faisons porter des charges à certains animaux, à d'autres le joug. Nous exploitons à notre profit le sens très subtil des éléphants et le flair des chiens. Nous extrayons des profondeurs de la terre le fer, indispensable pour la culture des champs. Je m'arrête là parce que ce serait à l'infini, mais là, on est à la base de tout dans le concret. Et bien sûr, bon an, mal an, on va, après cette tirade longue, voir tous les aspects beaucoup plus abstraits. Pardon, je bafouille. Mais pour en terminer avec cette présentation générale du livre, il y a aussi un aspect iconographique important. Alors d'abord parce qu'il y a des images, et puis parce que vous en proposez des analyses tout à fait passionnantes. J'aimerais que vous nous parliez peut-être de l'index de Constantin, dont vous parlez dans votre livre.
Oui, alors ça c'est une difficulté avec laquelle donc les historiens de l'art
Oui.
doivent Ben, faire avec. Dans une des cours des musées du Capitole, on a cette fameuse main dressée vers le ciel actuellement, là, une main droite qui appartenait, on le sait, au colosse de Constantin, qui est en fait un colosse lui-même remanié, le premier colosse qu'on a retrouvé, enfin, ce colosse
Oui.
de Constantin a pris la place d'un colosse précédent qui était le colosse de Maxence, et puis la tête a été modifiée pour renvoyer l'image de l'empereur, du premier empereur chrétien. Bon, cette main droite, elle est très connue, on la trouve très souvent reproduite, mais elle est le produit d'une restauration, et
Oui.
ça oblige à prendre conscience de la difficulté à analyser les images qu'on a conservées et les statues en particulier. Les statues, c'est vraiment trompeur par bien des aspects parce qu'elles sont très restaurées et on n'a pas toujours les archives nécessaires à la datation des différentes restaurations qu'elles ont connues, ces statues. Alors cette main droite de Constantin, l'index n'était pas aussi,
Oui.
aussi figé, aussi... Donc là, on a une restauration, mais récemment,
Oui.
une reconstitution alors financée par la Fondation Prada, puis aussi d'autres institutions, a permis donc de retrouver l'aspect originel de ce colosse de Constantin, haut de 12 mètres quand même,
Oui.
avec un index beaucoup plus recourbé sur un sceptre. Bon, c'est une proposition, mais... Si on regarde le résultat, on trouve que c'est un index un petit peu trop crochu même pour être crédible. Donc, on n'est pas encore parvenu, je trouve, à un résultat tout à fait plausible. Et voilà, ça doit nous inciter à la prudence. C'est très, très difficile de commenter les mains
Oui,
antiques.
bien
Elles sont
sûr.
souvent très stéréotypées, très de toute façon fabriquées au préalable hein, par les ateliers de sculpteurs et ensuite fixées sur des torses voilà, plus ou moins indifférenciés. C'est vraiment le visage qui va faire l'objet d'une individualisation. Mais comme j'ai pu le lire là, dans un article récent dans le magazine Histoire, c'est ça, certainement pas avec de simples doigts ou de simples ongles qu'on reconnaîtra une statue d'Auguste. Contrairement à la chevelure, par
Voilà, on
exemple. La
reconnaîtra
chevelure, elle...
à sa mèche célèbre.
Voilà, la fameuse mèche que vous connaissez aussi.
Mais tout ça pour dire que les mains, si on regarde bien dans l'art romain, elles sont omniprésentes. Alors, on n'a pas le temps de tout détailler, mais j'ai bien aimé aussi l'allusion au célèbre portrait de Messaline avec Britannicus, et on voit cette main tendue aussi. Enfin bref, les mains, elles sont omniprésentes. Et l'autre matériau sur lequel vous travaillez dans votre livre est non moins intéressant, c'est le matériau épigraphique. Hein, vous montrez avec des épitaphes émouvantes à quel point les mains sont importantes, les mains des enfants, les mains des artisans, les mains des femmes qui filent la laine.
Oui, c'est vraiment un matériau précieux, cette documentation épigraphique, elle est vraiment précieuse parce que pour une fois, on a l'impression d'entendre vraiment la voix des personnes les plus modestes, enfin, les fractions voilà, de la société qui d'habitude ne se fait pas entendre dans les sources littéraires, par exemple. Alors, c'est vrai qu'on trouve des épitaphes où les artisans vont vanter leur dextérité, leur capacité manuelle. Alors, c'est parfois les survivants qui le font à leur place. Et je pense par exemple à l'épitaphe d'un petit joaillier
Oui.
qui s'appelle Pagus et qui est mort à 12 ans et dont on dit qu'il avait une docta manus, une main savante déjà, une main habile. Et ces petites mains d'enfant, on sait que pour certains métiers, elles étaient très utiles. Pour là, par exemple, la joaillerie, des petits doigts peuvent être beaucoup plus efficaces que des grosses mains dodues. Et puis, alors, pour les mains des matrones qui sont qualifiées de filandières, d'aimant filer la laine, là, on est vraiment dans le registre conventionnel où on
Oui,
va
c'est
chercher à...
l'idéalisation de la matrone, oui.
Oui, la sage mère de famille qui reste dans une pièce de sa maison à filer la laine toute la journée. Là, c'est le rêve de toute cette société patriarcale d'imaginer que la mère de famille ne sort que peu de chez elle et se rend utile toute la journée, se rend utile à sa maisonnée, au point d'avoir des cales. Hein, on a aussi des éloges des cales de la bonne matrone aux mains tellement habituées à filer la laine qu'elles en deviennent dures. Mais là, c'est vraiment, oui,
Oui,
c'est
là, c'est
quelque chose qui
le
est un petit
registre,
stéréotype,
le
le
retour
stéréotype. Ouais.
à l'avant, hein, c'est-à-dire à la femme
Oui,
des
bien sûr,
débuts.
oui.
Alors, Sarah, nous allons marquer une petite pause musicale et nous retrouver juste après pour aller un petit peu plus loin encore dans votre livre. Mais bien sûr, la chose la plus importante, ce sera que les auditeurs se précipitent pour le lire. Donc, ce livre paru chez Albin Michel. À tout de suite. Alors, voici la deuxième partie de l'émission Antiquissimo sur Radio Alliance Plus et nous avons le grand plaisir de bavarder avec Sarah Ray à propos de son livre Manous, une autre histoire de Rome. Alors, tout à l'heure, on a déjà dit à quel point la Manous, elle a plusieurs sens et elle s'appuie sur la conception juridique de ces juristes, de ces grands juristes que sont les Romains. Vous diriez que dans quel domaine important encore, Sarah, il faudrait aller chercher cette main droite, de préférence?
Ah. Ben, là où les liens sont évidents, c'est avec la religion. De toute façon, les premiers acteurs du droit à Rome, ce sont les pontifes, donc ce sont des représentants religieux. Cette effectivement séparation entre la droite et la gauche, elle est fondamentale dans les rites romains. On voit qu'il y a une partition manuelle très précise à observer, et quand on fait un sacrifice, c'est vraiment la main droite qui va être mise en avant, c'est elle qui doit être pure, c'est elle qui doit connaître les gestes qui sont attendus. On va réserver la sinistra, la main gauche, pour des sacrifices beaucoup plus rares, destinés aux divinités souterraines, chthoniennes, donc les divinités infernales. Mais vraiment, c'est la droite qui compte. On considère que c'est le bon côté, voilà, celui qui est observé par les dieux célestes, les dieux d'en haut. Et ça me permet, si j'ai un peu de temps, d'évoquer les mésaventures d'un certain Marcus Sergius Silius.
Oui, justement, justement, j'allais
Oui.
vous en parler, oui.
Alors, ça a été un homme politique important et un grand soldat du 2e siècle avant Jésus-Christ. Début deuxième siècle, vers 197 avant Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui avait perdu sa main droite au combat et qui avait fait remplacer cette dextra perdue par une prothèse, déjà, hein, une main en fer, dextra ferrea. Et cette main en fer, visiblement, lui a causé bien des problèmes puisque le collège des préteurs s'est en partie opposé à sa présence dans les sacrifices publics. Alors, on sait qu'une sorte de procès s'en est suivi. Alors, on n'en connaît pas bien le résultat, mais c'est Pline l'Ancien qui en parle. Et il semblerait que cette main en fer ait été considérée comme une sorte d'impureté, d'handicap interdisant finalement la présence de ce Marcus Sergius Silius dans les grands sacrifices publics.
Oui, c'est vraiment une réflexion intéressante. C'est à la fois, on connaît peu d'histoires de prothèses de ce genre, et en même temps, l'idée que ben, pour un Romain, ce qui est sur la nature, au-delà de la nature, eh ben, ce n'est pas acceptable. Cette main de
Oui,
fer ne peut pas fonctionner comme une vraie main. Enfin, fonctionner, c'est pas le mot, mais n'a pas la même valeur qu'une vraie main.
Dans cette histoire, on comprend pas tout ce qui se joue, mais il est possible que ce soit le matériau même qui ait posé problème, hein. Le fer, vous savez, c'est rattaché à l'imaginaire ben, des armes et de la mort. Si les sacrifices publics ben, s'effectuent, vous savez, à l'intérieur du pomerium, normalement, les armes ne doivent pas être
Bien sûr.
présentes dans Rome. Alors, est-ce qu'il y a là une allusion finalement au domaine de la violence et de la mort
Il ne
qui aurait
conviendrait
dû être
pas.
écarté des sacrifices publics? C'est peut-être ça qui a posé problème. Bon, puis j'ai l'impression que cette dextra, c'est vraiment l'organe jupitérien. C'est vraiment par cette partie du corps qu'on va juger la fidesse, bien sûr, donc la bonne foi qu'inspirent les magistrats. Donc là, on avait quelqu'un qui pouvait poser problème. Silus, Marcus Sergius Silus, n'était pas tout à fait conforme, voilà, aux attentes romaines.
Oui, les Romains, les mains de robots ne conviennent pas. Alors, une autre
Non.
façon de concevoir, mais c'est en fait c'est la même, la dextra manu, c'est la dextra junctio lors du seul vrai mariage religieux à Rome.
Oui, alors cette poignée de main, elle a pu susciter des difficultés de compréhension parce que ça n'est pas un geste tout à fait obligatoire à l'intérieur de la cérémonie du mariage. Alors on sait qu'on a plusieurs catégories de mariage, c'est
Oui.
très compliqué.
Mais d'ailleurs, dans les autres mariages, on va parler de sine manu ou de cum manu, enfin, la main est toujours là quand même, hein.
Oui, même si cette distinction, attention, elle est plutôt finalement l'objet, elle a été faite par des historiens du droit romain. On la voit pas clairement mise en œuvre dans les
Dans les
textes
textes,
latins
oui.
classiques, mais effectivement, on sait que dans les faits, certaines épouses restaient dans l'unité économique que formait leur famille d'origine, tandis que d'autres rejoignent la maisonnée là du mari et entrent vraiment dans sa main. Ça, c'est le cum manu. Mais ce qu'on va retrouver ensuite, c'est les nombreux, très nombreux reliefs funéraires représentant des époux se serrant la main sur leur
Oui.
tombeau. Et ça, c'est pour exprimer tout simplement la concordia, c'est-à-dire la bonne entente qui a régi leur union. Nous, ça nous paraît être un peu trop contractuel comme geste, mais c'était vraiment un signe de bonne entente entre époux, de concorde. Voilà.
Oui, et puis ce fait de se serrer la main droite, ça a une valeur particulière.
Oui, beaucoup plus qu'aujourd'hui, où on s'en sert finalement pour saluer de manière très, très anodine. Enfin voilà, on dit bonjour, on serre la main, ça n'a pratiquement aucune implication, alors que ça semble dans l'Antiquité romaine plus chargée de sens, plus liée justement à l'engagement, alors on dirait nous d'une parole, mais d'une fidesse là encore, hein, d'une foi. On voit quelques grands accords politiques comme ça, scandés par des dextrarum unctiones, hein,
Oui.
par des onctions de main droite. Et c'est mieux, effectivement, que ces poignées de main s'effectuent sous le regard d'autres témoins. On voit ça aussi dans les tournées électorales des candidats romains, donc mot à mot des individus qui ont revêtu leur toge bien blanche
Passer à la
pour
craie, oui.
susciter la confiance de leurs électeurs, vont serrer la main de leurs administrés, de leurs futurs électeurs. Et là, il ne faut pas associer ces poignées de main à des paroles désobligeantes, comme ça a été le cas d'un certain Scipion Nasica, qui s'est moqué de la main endurcie d'un paysan, et ça lui a valu ensuite un terrible échec dans les urnes.
Alors, puisqu'on parle des grands hommes aussi, m'a beaucoup ému dans votre livre les mentions des poètes Tibulle et Ovide et le regret qu'ils ont à l'avance de savoir que ils vont peut-être mourir sans que se penche quelqu'un qui lui tiendrait la main, justement.
Oui, ça fait partie des gestes de piété. On en a quelques-uns comme ça. On sait que Énée, le grand héros romain de l'Énéide, enfin troyen, mais
Oui.
finalement romain, c'est quelqu'un qui déjà tient par la main son fils, son petit garçon, et puis tient aussi, bon, alors sur son dos, son vieux père.
Oui.
Et après, toujours dans ce registre de la pietà, ce qu'on doit aux membres de sa famille, mais aussi aux dieux, il va y avoir la main du mourant qu'on tient jusqu'au bout. Et effectivement, on trouve dans la poésie, par exemple chez Ovide, hein, l'idée qu'aucune main amie ne sera là pour le soutenir dans son agonie. Effectivement, c'est des vers très, très touchants. C'est des gestes dont on comprend encore aujourd'hui
Voilà, ça c'est
la portée.
intemporel, oui, voilà, c'est
Oui.
ça. Et ça concerne, puisque vous citez aussi une autre épitaphe, ça concerne toutes les catégories d'hommes et de femmes, quoi. Cette peur de
Oui.
mourir sans la main de quelqu'un qu'on aime.
Oui, sans aussi, oui, le mari qui clôt les yeux de son épouse. Oui, il y a vraiment des descriptions très sensibles, hein, dans les épitaphes romaines, où on sent que voilà, il peut y avoir aussi une conjugalité qui n'est pas que contractuelle. Parfois, on a l'impression que les
Oui.
mariages romains, ça n'est que des affaires politiques. Non, il y a
Il y a
aussi
aussi beaucoup de
de
belles
conjugation.
histoires. Oui.
Oui, il y a beaucoup de témoignages d'amour et d'affection entre membres d'une même famille. Oui.
Alors, nous n'avons pas le temps, et nous n'avons pas tout dit, bien sûr, nous n'avons pas le temps de tout dire, mais dans votre livre aussi, vous évoquez les bonnes mains et puis les mauvaises, entre guillemets, hein. Il y a aussi tout un tas de choses qui tournent autour de ça. On va devoir se quitter
Oui.
parce que l'émission touche à sa fin. Est-ce que vous avez projet de parler du langage du corps à nouveau? Êtes-vous plongé dans un livre? Si vous avez 2 mots pour nous en dire quelque chose?
Oui, alors non, je vais décevoir mon public, je ne ferai pas les pieds puisque chacun me fait la blague. Je ne passerai pas aux pieds désormais, mais j'aimerais voir comment chez les Romains, il y avait un imaginaire de la continuité entre corps et nature. Voilà, j'en dis pas plus.
Bon, ben, on attend avec impatience ce nouveau livre. On vous souhaite bon courage parce que c'est beaucoup de travail, de recherche et d'écriture. Et on vous
Merci.
souhaite une bonne journée. À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.